Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'heure des vacances a sonné, mes amis, et je pense que c'est à cela qu'on doit d'avoir des bancs un peu moins fournis, encore moins fournis que d'habitude, j'allais dire. Voilà, l'heure des vacances a sonné, du moins pour les plus chanceux d'entre nous, et puis au moins les autres qui restent chez eux ont-ils le loisir de lever un peu le pied. En tout cas, je vous le souhaite. Et il est de tradition, lorsque l'on arrive au seuil des vacances, eh bien, de songer à un ou deux bons livres pour l'été. J'entends par bons livres pas le dernier best-seller qui est sorti et qui est tiré à plusieurs millions d'exemplaires. Non, non, je n'entends pas cela. J'entends un ou deux livres de spiritualité. Je pense que, voilà, vous avez pléthore de propositions qui vous sont faites de droite et de gauche, et vous vous dites que ces deux mois, contrairement à l'année passée et aux années précédentes, eh bien, seront consacrés un peu plus à la vie spirituelle. Parce que si le corps a le droit à son repos, l'âme également, c'est ce que vous vous dites, et vous avez raison, l'âme a le droit également à sa respiration, à sa restauration. C'est un très bon réflexe. Alors on cherche de ci, de là, et puis en réalité, comme l'âme de Buridan qui a le choix, vous savez, entre un seau d'eau et de quoi se restaurer par l'avoine, ne sachant que choisir, il finit par mourir. C'est bien ce que je redoute pour votre âme. Alors elle ne va pas jusqu'à mourir, heureusement, mais je redoute que ces vacances passent sans que vous ayez jamais eu l'occasion d'ouvrir ne serait-ce que le début d'un bouquin de spiritualité. Alors plutôt que de vous laisser butiner à droite à gauche, j'ai un conseil à vous donner. C'est le truc du curé ou du chapelain, si vous voulez. Un seul titre, c'est vraiment le best-seller entre tous. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Il s'agit, notez bien son titre, il s'agit de l'Évangile. L'Évangile, c'est ce livre qu'on ouvre presque jamais, depuis qu'on l'a reçu en héritage, au moment de la profession de foi, au moment de je ne sais quel sacrement de l'enfance. Avouons que l'Évangile est ouvert par nous assez peu souvent. Sinon, le dimanche, vaguement, lorsque le prêtre chante l'Évangile, ou voilà, lorsque on vient de se lever un peu appesanti par la nuit qu'on vient de passer, très courte, voilà. Donc je voudrais que cet été, ou plutôt le Seigneur Jésus me demande de vous dire qu'il aimerait bien que vous ouvriez son testament, le Nouveau Testament, et particulièrement les quatre évangiles. Avouez que le livre est quand même suffisamment concis pour que vous puissiez au moins avoir parcouru l'un des quatre pendant cet été. Faites-le, mes frères, et faites-le de manière persévérante, c'est-à-dire passez ces deux mois, ou jusqu'à la fin du mois d'août, à lire chaque jour une partie, au moins quelques lignes, quelques versets de l'Évangile, et vous m'en direz des nouvelles. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait cette expérience, je vous promets, je vous le promets, et je suis prêt à vous rembourser l'achat de l'Évangile si vraiment vous n'étiez pas heureux à la fin des vacances, je vous promets que vous ne sortirez pas de ces vacances comme vous y seriez sorti sans avoir ouvert aucune page d'Évangile. L'Évangile, c'est la lecture par excellence. C'est Saint Grégoire qui disait à ses moines avant d'accéder au siège de Pierre, « Mes frères, à un chapitre, je crois vous l'avoir dit une fois ou deux, parce que j'insiste sur la lecture de l'Évangile, pas assez, mais à la veille des vacances, je le fais davantage. » Que disait ce bon Grégoire à ses moines? Il leur disait, « Mes frères, qu'avez-vous mangé ?» Ses frères ne comprenaient rien. C'était de bons vieux moines médiévaux, bien bourrins, et ils ne comprenaient rien à ce que voulait leur dire leur bon père. Leur bon père était obligé de leur dire, « Mes frères, je veux parler de l'Évangile. » C'est cette nourriture dont vous avez besoin encore plus que la nourriture terrestre. Nous en sommes convaincus, ou disons, on nous l'a rebâché suffisamment souvent pour que nous le sachions. Mais il faut que ça descende de là à là, de la tête au cœur. Et pour que ça descende de la tête au cœur, il faut que vous ouvriez cet Évangile. Il faut vraiment que chaque jour vous en fassiez votre miel. Parce qu'enfin, vous essayez de progresser bon an mal an dans la vie spirituelle, et moi avec vous. Avouez que les résultats ne sont pas très probants. Alors, vraiment, il faut s'y appeler davantage, et non pas chercher des recettes de cuisine je ne sais où, dans quelques livres bon Dieu a, ou dans quelques, même d'excellents auteurs, des livres qui font 800 pages, 900 pages, et que vous peinez à suivre parce que ils vous tombent des mains, et parce que les méthodes qu'ils proposent sont quand même un peu compliquées, ne serait-ce que pour prier. Dans l'Évangile, rien de tel. Les choses sont extrêmement simples. Les choses sont extrêmement acéré, et je me réjouis toujours lorsque j'ouvre l'Évangile de voir la façon si pédagogique dont le Seigneur Jésus nous enseigne. Il y a à chaque page de l'Évangile, même lorsqu'il s'agit d'un tout petit passage comme ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui, il y a tout. Il y en a pour tout le monde. Chacun en prend pour son grade, si j'ose dire, et en reproche et en encouragement. Il y a dans chaque page d'évangile, je vous assure que vous en ferez l'expérience cet été en ouvrant votre évangile, un baiser et une caresse, si l'on veut, quelque chose de paternel, quelque chose qui vous relève, en même temps qu'une engueulade. Soyons clairs, chacun prend à la fois un baiser et une caresse. Ça, c'est le pédagogue par excellence. L'autorité. Vous savez qu'on disait que Jésus parlait avec autorité. Autorité, auctoritas, ça vient du latin augere. Augere, c'est croître, grandir. Celui qui exerce l'autorité fait croître celui qu'il a en face de lui. Eh bien, Jésus parle avec autorité parce que même s'il rabroue, même s'il reprend, et il le fait systématiquement pour chacun d'entre nous, celui qui sortirait d'une page d'évangile sans avoir pris pour son compte, c'est qu'il n'aurait rien compris à ce que lui dit le Seigneur Jésus. Alors il faut qu'il se remette à l'ouvrage. Mais jamais le Seigneur Jésus ne veut nous affaler, jamais il ne veut nous faire tomber par terre, alors il nous relève, alors il nous encourage comme un bon père, comme un bon maître. Et que nous dit-il aujourd'hui? Parce qu'enfin, il faut que j'en vienne à l'évangile, sinon cette homélie va durer des heures. Que nous dit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, le Seigneur nous explique que nous sommes de très mauvais juges. Il est certain que, aussi souvent que nous respirons, quasiment, nous jugeons. Nous jugeons le matin, midi et le soir, nous jugeons de tout et surtout, nous avons un avis sur tout le monde, même les personnes que nous ne connaissons pas, que nous ne faisons que croiser dans la rue, parce que cette personne ne me plaît pas, de prime abord, eh bien je juge. Parce que celui-ci, au contraire, me paraît tout à fait séduisant, je ne connais rien de ce qu'il a sous la carapace, alors je le juge bon, je juge sympathique, je juge aimable et je veux le revoir. Je me juge moi-même, mais je me juge moi-même, soit pour m'accabler, soit au contraire, pour me brosser les chaussures. Le Seigneur Jésus nous explique que nous ne sommes pas de bons juges. Pourquoi? Parce que le péché a obscurci notre intelligence, parce qu'il a pesanti notre cœur et parce que nous ne voyons pas ce qui est derrière l'apparence. Alors, que nous dit notre Seigneur? Il nous dit, mes amis, je vais vous donner le critère pour juger. Le critère pour juger, il est très simple, ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Peu importe l'apparence, peu importe même l'être de la personne. Ce qui compte, peu importe, encore moins d'ailleurs, peu importe son origine. S'il est bien une institution sur cette terre qui ne juge personne d'après son origine, c'est l'Église. Il n'y a aucun déterminisme dans la façon dont procède le Seigneur Jésus pour choisir ses apôtres, pour choisir les saintes femmes. Il va chercher de la prostituée au fils de famille en passant par le publicain, le pêcheur du lac de Tibériade et que sais-je. Le Seigneur Jésus ne tient absolument pas compte de ses origines, des racines des personnes qu'il a en face de lui. Il ne tient pas compte de nos propres origines, j'entends nos origines sociales bien sûr, j'entends également la date à laquelle nous avons reçu le baptême, j'entends également le passé que nous avons pu avoir, parfois hasardeux, parfois mouvementé. Mais songez à saint Augustin, saint François d'Assise, sainte Marie-Madeleine, le passé de ces gens-là était-il si glorieux que ça? Je ne crois pas. Et à considérer uniquement ces origines-là, mais si le Seigneur n'avait tenu compte que de cela, jamais il n'en aurait fait les saints qu'il en a fait. Jamais donc le Seigneur ne juge uniquement sur l'apparence, sur le passé, peu importe. La seule chose qui compte, c'est ce qui vient. La seule chose qui compte, c'est l'agir, c'est un agir quotidien, un agir de chaque instant. À chaque instant, le Seigneur Jésus nous propose « Veux-tu être mon disciple ?» Oui ou non. Et à chaque instant, nous avons l'opportunité de lui répondre « Oui Seigneur » ou « Non ». Et alors de porter du fruit. Jésus nous dit « Je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que vous en portiez en abondance. » Je ne prends que deux cas, mes amis, où nous jugeons très mal. Le premier cas, c'est lorsqu'il nous semble que quelqu'un, parce que nous ne le sentons pas très bien, parce qu'il appartient à une institution, que sais-je, à une religion qui est mal fondée, ou parce que c'est un mécréant, alors le couperet tombe très rapidement. Nous jugeons que vraiment, il s'agit là d'un loup, il s'agit là de quelqu'un dont il faut absolument s'éloigner. Voilà. Mais nous ne savons absolument pas ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Encore une fois, la seule chose que nous puissions jauger, ce sont les actes de cette personne. Si cette personne aime, et aime durablement, si cette personne est capable d'endurer des difficultés avec le sourire, soyez certain que cette personne a reçu de Dieu des grâces insignes. Quelle que soit son origine, encore une fois, quel que soit le lieu où elle est. Vous savez que Dieu, par le passé, dans le Nouveau Testament notamment, s'est entouré de prophètes qui ne venaient pas du giron du peuple élu. de prophètes à la Melchisédek, de prophètes parfois issus des rangs des Philistins ou de je ne sais quelle race païenne qui avait pour habitude d'écraser allègrement le peuple élu. Et voilà que Dieu se servait de ces personnes pour aiguiller, pour plutôt aiguillonner le peuple élu. Vous voyez que le Saint-Esprit, l'Esprit souffle où il veut, dit-on dans l'Écriture. Nous n'avons pas, mes frères, à juger de ces personnes. Juger de leur religion fausse, bien sûr. Juger de l'institution mauvaise à laquelle elles pourraient appartenir, bien sûr. Juger du cœur de ces personnes, niet. Sauf à considérer les fruits de ces personnes. La deuxième, je m'arrêterai là, le deuxième endroit où nous aurions loisir de mal juger, c'est en ce qui nous concerne, nous, bien sûr. Parce que nous avons facilement cette tendance à déceler des loups déguisés en agneaux chez nos contemporains. Et oui, mais est-ce que nous avons ce réflexe de nous retourner vers nous-mêmes en nous disant que nous aussi, de temps en temps, nous sommes de sacrés loups, bien voraces, bien rapaces, qui nous déguisons en agneaux? Nous avons une bouille enfarinée lorsque nous entrons à la chapelle, lorsque nous venons au banc de communion, et aussitôt retournés à notre place, à notre banc, déjà le loup se réveille. Et en réalité, le masque se craquelle. Voyez, parfois nous avons cette tendance même à user de notre autorité sur les personnes qui sont autour de nous pour en venir à nos fins, faire des autres des moyens, tout en leur parlant d'évangile, tout en leur parlant de nobles causes que sont la France et l'Église, que sais-je, le bon Dieu. Mais en réalité, ce que nous cherchons là, c'est capter leur attention, séduire, plaire. C'est leur faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Voyez là qu'il s'agit d'une conduite de loup vorace, et pas du tout de brebis, et encore moins de petits bergers. Mes frères, c'est sur ces quelques considérations que je vous laisse. Si vous voulez en savoir davantage, mais peut-être êtes-vous déjà repu, peut-être êtes-vous déjà même totalement dérouté, ou vous ne voulez plus entendre parler de l'Évangile parce que l'abbé vous a saoulé ce matin. Mes frères, si vous voulez même reprendre ce texte avec peut-être une lecture plus fine que celle que je viens de faire, c'est-à-dire la lecture de l'Esprit de vérité, tout simplement, l'Esprit Saint, mais reprenez cet Évangile. Aujourd'hui, avant ce soir, trouvez le temps de puiser dans cet Évangile de quoi vous nourrir pour cette semaine. Et vous me le promettez, je le promets avec vous, vous savez que c'est pas si facile que ça pour un prêtre de lire quotidiennement l'Évangile, contrairement à ce qu'on croit. Les prêtres ont bien des chats à fouetter et de temps à autre, ils oublient l'Évangile. Priez pour que je n'oublie pas l'Évangile, que je puisse vous nourrir. Et moi, je vais prier pour que cet été, vous, pendant 2 mois, quotidiennement, vous découvriez l'Évangile. Encore une fois, mon offre tient. Celui qui, à la fin des vacances, ne serait pas heureux d'avoir ouvert quotidiennement l'Évangile, je lui rembourse l'intégralité des frais d'achat de l'Évangile. Pas à la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.